Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gloria Eliazor et je me joins aujourd'hui à Sena Matano pour animer l'émission Enquête d'Europe sur Euradio, dont chaque épisode est préparé et animé par deux étudiants du Master Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Aujourd'hui, nous allons parler politique environnementale européenne et plus précisément politique de biodiversité européenne. Du 7 au 19 décembre dernier, s'est tenue la COP15, ou conférence de Montréal sur la biodiversité. Elle a abouti à un accord historique en fixant à 30% l'objectif des terres et des océans de la planète à protéger d'ici 2030. Bien que le réchauffement climatique soit au cœur des débats sur l'urgence environnementale, celui-ci ne constitue qu'un seul pan de cette urgence. La planète compte en effet 9 limites planétaires qui conditionnent la vie sur Terre sur le long terme et qui ne doivent donc pas être franchies selon cette notion de limite planétaire conceptualisée par un groupe de scientifiques et proposée en 2009. Le réchauffement climatique ne constitue qu'une seule de ces limites. L'érosion de la biodiversité en est une autre et pourtant elle est bien souvent reléguée au second plan.
Enquête.
La biodiversité, qui correspond, rappelons-le, à l'ensemble des êtres vivants et de leurs écosystèmes, est aujourd'hui impactée à la fois par les effets des activités humaines, par le changement climatique, mais elle serait également affaiblie par certains éléments de la lutte contre le réchauffement climatique elle-même. Par exemple, les énergies renouvelables sont un élément clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, selon une étude publiée en 2017 par la Ligue pour la protection des oiseaux, 56 000 oiseaux auraient été tués cette année-là par des éoliennes. Par ailleurs, le plan RE Power EU, proposé par la Commission européenne en 2022, mettra l'accent sur le développement des énergies renouvelables en adoptant des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, là où une évaluation des incidences sur l'environnement ne sera pas nécessaire, même si l'installation d'un dispositif d'énergie renouvelable modifie de manière significative l'environnement de la zone.
Pourtant, certains acteurs soulignent le fait que prendre plus en compte de la problématique de la perte de la biodiversité pourrait contribuer à enrayer le réchauffement climatique. Une étude menée par le Laboratoire d'écologie alpine a en effet souligné le fait que le changement climatique accélère le phénomène d'érosion de la biodiversité, mais également que la protection de la biodiversité pourrait favoriser la lutte contre le réchauffement climatique. Dans cet épisode d'Enquête d'Europe, nous allons nous intéresser à la façon dont cette question de la biodiversité est traitée à l'échelle des politiques publiques européennes à l'heure actuelle. Au niveau européen, la biodiversité fait l'objet de politiques publiques. Ces dernières années, dans le cadre du Plan Vert pour l'Europe, l'Union européenne a adopté en mai 2020 la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, qui contient des objectifs ambitieux à l'échelle mondiale. Cette stratégie vise tout d'abord à protéger et à gérer efficacement au moins 30% des zones terrestres et marines de l'Union européenne en tant que zone protégée. De plus, elle fixe également des objectifs visant à réduire l'utilisation des pesticides d'au moins 50% et à cultiver 25% des terres agricoles selon les normes de l'agriculture biologique. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Inès Trépin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère au Parlement européen et qui intervient aujourd'hui à son nom propre et qui est aussi l'autrice de Biodiversité quand les politiques européennes menacent le vivant. Et nous recevons également Hélène Royer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en géographie et en écologie à l'Université de Poitiers au sein du laboratoire Ruralité et dont la thèse s'intitule « Agriculture urbaine entre nature, gestion, biodiversité, exemple des bergers et des pâturages dans le Grand Poitiers ». Ces travaux sont co-dirigés par Jean-Louis Yanguet et Nicolas Bèche. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, nous aimerions poser une première question à Madame Royer. Qu'est-ce que la biodiversité exactement en termes scientifiques ?
Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en général, la biodiversité va être définie selon la définition qui est proposée dans la Convention de la diversité biologique qui a eu lieu en 1992 à Rio de Janeiro. En gros, on considère la biodiversité sur trois niveaux, donc celui des écosystèmes, en gros, des milieux de vie, hein, des êtres vivants. Donc, ça concerne les écosystèmes terrestres, marins, les autres systèmes aquatiques, etc. Vous avez un deuxième niveau donc, qui concerne la diversité d'espèces donc, qui vont vivre dans un lieu donné, qu'on appelle aussi diversité spécifique. Et vous avez donc le troisième niveau qui est celui dit de la biodiversité intraspécifique. Donc là, ça va être la biodiversité au sein des espèces. Donc en gros, c'est la diversité génétique des individus au sein d'une même espèce. Donc ça, c'est en fait la définition qui va être couramment admise dans les sciences naturelles, dans le grand public. C'est la définition qu'on retrouve par exemple sur le site du ministère. Et c'est une définition donc, qui a été proposée par des biologistes de la conservation donc, pour cette fameuse convention sur la diversité biologique dans le but justement de pouvoir proposer des mesures de protection fortes sur la biodiversité. Après, ça, c'est une notion en termes scientifiques qui était déjà utilisée par des chercheurs en biologie depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est une définition qui va rester assez descriptive, plutôt statique, et qui va supposer en fait une exhaustivité sur notre compréhension de la biodiversité. Et c'est là où les sciences humaines et sociales vont avoir quelque chose à apporter, puisque moi, je me trouve à l'interface entre biologie et géographie. Donc j'ai un intérêt aussi à me poser cette question justement de l'apport des sciences humaines et sociales. Et en fait, si on revient sur l'histoire du mot, donc un sociologue, André Micou, va démontrer en fait l'apparition du terme de biodiversité va résulter d'une prise de conscience des menaces qui vont peser sur le vivant et que ça va être sous ces conditions-là que ce terme va apparaître. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que la biodiversité est une construction sociale. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais c'est plutôt qu'avant, on ne pouvait pas appréhender, concevoir la biodiversité avant de se rendre compte qu'elle était menacée et qu'elle risquait de disparaître. On a aussi deux philosophes, donc Yves Ménard et Soato Sarkar, donc qui vont recentrer en fait la définition autour de l'humain, qui vont également y ajouter donc des dimensions temporelles et perceptives, donc qui vont nous dire qu'en fait la biodiversité va aussi découler d'actions passées, donc en particulier d'actions de conservation volontaire, donc qui vont avoir un impact sur la biodiversité observée actuellement. Et puis notre expérience personnelle qui va se construire dans le temps, dans le rapport affectif et en fonction des stimuli qu'on va recevoir du monde extérieur. Une autre façon d'appréhender la biodiversité.
Alors, nous aimerions entendre Madame Trépin parler de la biodiversité du point de vue de la politique européenne. Quelle place occupe la biodiversité dans la politique environnementale européenne ?
Bien, tout d'abord, il faut commencer par reconnaître une chose, c'est qu'il y a véritablement un socle législatif européen pour protéger la biodiversité. Et on parle alors à ce moment-là de deux directives phares, qui sont la directive oiseaux et habitat. Donc ça, on peut vraiment dire que c'est le socle. Donc il y a quelque chose qui est fait. Il y a aussi une volonté dans le chef de l'Union européenne de toujours être un peu le chef de file, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau de la biodiversité. Et par exemple, il y a eu une législation forte qui a été proposée en juin dernier par la Commission européenne, donc avec la perspective de la fameuse conférence à Montréal, là, la COP15 à Montréal, c'était de dire, eh bien, nous allons avoir une loi sur la restauration de la nature, avec une volonté de restaurer 20% des territoires qui avaient été dégradés. Donc, c'est qu'était quand même quelque chose de très fort, parce que c'était déjà aussi une prise de conscience que on n'en est plus seulement à la protection de ce qui reste, mais on va devoir restaurer tout ce qui a été détruit. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement positif. Et à cela se greffe, comme vous avez pu le dire dans l'introduction aussi, une stratégie européenne en matière de protection de la biodiversité qui finalement était aussi un cahier de charges qu'elle donnait en vue aussi de la COP15 pour montrer que c'était un très très bon élève. Donc là, c'est vraiment, je dirais, le côté pile. Mais de l'autre côté, on pourrait garder maintenant le côté face, ou bien le côté face ou le côté pile, peu importe. Et alors là, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est chaque fois qu'il y a une nécessité de faire des arbitrages dans les politiques, là, on constate que c'est finalement la biodiversité qui est toujours reléguée au second plan. Et puis même parfois, on nous serait même tenté de dire que la biodiversité est une non-priorité politique. Alors, je vais quand même donner deux exemples parlants. On voit bien, par exemple, que la guerre en Ukraine est prise maintenant comme prétexte pour pouvoir détricoter une série d'engagements qui auraient pu être pris en matière de la biodiversité. Par exemple, ici, on avait eu récemment la réforme de la nouvelle politique agricole commune. Et donc la PAC, il faut bien se dire que c'est un outil qui est un levier qui est quand même fondamental à un moment donné si on veut restaurer et protéger la biodiversité agricole notamment. Donc il y avait quelques mesures de verdissement de la PAC et là-dedans, bien sûr, il y a l'idée de pouvoir garder, de créer des paysages riches en biodiversité sur au moins enfin, une partie des terres agricoles. Mais alors, en fait, déjà, entre, je dirais, les recommandations des scientifiques qui disaient qu'il faudrait quand même que 10% des surfaces agricoles puissent être consacrées à la biodiversité, quelque part, en faisant des paysages riches en biodiversité, déjà, ce n'avait pas été fait dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, ça a été bien en deçà de ce que les scientifiques recommandaient. Mais alors, dès qu'il y a eu la crise en Ukraine, une des premières mesures qui a été faite, c'est de dire, ah, mais finalement, vous savez, les terres en jachère qui sont vraiment un lieu où peut se développer la biodiversité, eh bien écoutez, à cause de la guerre en Ukraine, ce qu'on va faire, eh bien on va pouvoir les recultiver et en plus utiliser des pesticides. Donc on voit vraiment bien cette dissonance cognitive, mais qui malheureusement peut être répétée dans beaucoup d'exemples. Je vais encore donner quand même un tout petit exemple, parce que vous avez parlé aussi de la stratégie de la biodiversité qui parlait de la réduction des pesticides de 50%. Il faut savoir aussi que cet objectif de réduction de 50% se trouvait aussi dans la stratégie de la ferme à la fourchette. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on est là, on a prolongé de facto l'utilisation du glyphosate qui a été fortement décrié au niveau de la biodiversité. Et aussi, on voit lorsqu'il y a une législation européenne, par exemple, en matière d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles, là, on pense notamment à 3 néonicotinoïdes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on continue à donner des dérogations. Voilà ce qu'on fait. Donc, vous voyez, donc, il y a cette dissonance cognitive continuelle dans les arbitrages qui sont faits, qui fait que finalement, de facto, malgré la belle rhétorique, on a vraiment strictement rien à dire, on voit bien qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait.
Merci Madame Trépan. Vous l'avez déjà évoqué, mais concernant le traitement de la biodiversité au niveau européen, spécifiquement lorsqu'on compare, lorsqu'on s'intéresse aux politiques environnementales, est-ce que vous considérez que la biodiversité est reléguée au second plan par rapport au réchauffement climatique ?
Ah, pour moi, c'est clair. Disons que ce qui est... Bon, de toute façon, c'est pas plus compliqué. Quand on voit finalement quel est le cœur, je dirais le fil conducteur de toute la mandature européenne, telle qu'elle a été voulue par la Commission européenne et Ursula von der Leyen, c'est de dire effectivement, on a ce pacte vert. Et ce pacte vert, il tourne autour de la fameuse loi climat. Et donc, cette loi climat, on peut dire que c'est l'alpha et l'oméga du programme de cette mandature. Et donc, tout un ensemble de politiques a été revu, notamment les politiques énergie, transport et autres, pour pouvoir, à un moment donné, répondre à cet objectif climatique qui est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors, au point de départ, la stratégie de la ferme à la fourchette, la stratégie sur la biodiversité était censée répondre à tout ça. Mais, dans les faits, on est arrivé dans une situation, notamment par la réforme de la directive européenne sur les énergies renouvelables, on est arrivé à une situation où, de plus en plus, on constate que le climat peut rentrer en compétition avec les objectifs de biodiversité. C'est là où on en est.
Donc, par rapport à ce que vous dites face à ce constat, je suppose que rétrospectivement, les objectifs qui étaient fixés à l'horizon 2020, dans le cadre de la stratégie en faveur de la biodiversité, ont relativement échoué.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment dramatique, c'est que les stratégies européennes en faveur de la biodiversité arrivent toujours au même bulletin final, qui est un mauvais bulletin. Même si, bon, tout n'est pas à jeter, bien sûr, on pourra dire que de façon ponctuelle, il y a certaines choses qui se sont améliorées, mais la lame de fond, elle est systématiquement négative. Donc, on va vraiment dans un processus de dégradation des écosystèmes. Et on peut dire exactement la même chose au niveau de tout ce qui sont les grands messes internationales, au niveau des COP. On arrive toujours au même résultat. Mais je crois que ça pose véritablement question sur la manière dont on mène les politiques. Et le grave problème, c'est qu'on a vraiment une vision en silo. Par exemple, à un moment donné, la politique agricole commune dont je parlais tout à l'heure, eh bien, quelle est la vision ? Là, eh bien, on a des espaces productifs productif. On ne va pas les voir à ce moment-là comme des écosystèmes agricoles. Et si on les voyait déjà comme, je dirais, de façon plus holistique comme écosystème, on n'aurait pas à ce moment-là le même type de politique qui est considéré de dire « Ok, nous sommes sur une espace productif, donc là, allons-y, déversons à gogo des pesticides, des intrants, et puis finalement, ben, ce qu'on va faire, on va trouver quelques rustines de fortune en faisant quelques espaces protégés. » Et donc, c'est cette logique-là qui doit être fondamentalement remise en question. On ne protégera jamais la nature si on l'aborde sous l'angle étroit de petites réserves naturelles qui sont en général des petits mouchoirs de poche à gauche et à droite.
Donc finalement, on peut se questionner sur la façon dont on conçoit la biodiversité dans notre société en général. Et j'aimerais adresser une question à Madame Royer. Quelles sont selon vous les différences entre la manière dont la biodiversité est perçue socialement et la manière dont elle est comprise scientifiquement aujourd'hui ?
On peut dire que, en fait, les savoirs scientifiques sur la biodiversité vont aussi se construire en fonction des représentations et de la perception que nous en avons, donc en tant qu'humains, puisque les scientifiques sont humains. Et puis, ça va aussi avoir des impacts sur la manière dont on va décider, en fait, des mises en place de protection. Donc, en fait, on a évidemment une amélioration de ces connaissances, hein, de jour en jour, mais on a encore, évidemment, des limites, alors on va peut-être pas s'aventurer sur les limites de manque de personnel, de manque d'argent, ça c'est bien connu. Mais il y a des biais qui sont aussi plus humains, qui font qu'en fait les scientifiques vont avoir tendance à orienter les choix qu'ils font en termes de recherche. Après, ces biais existent chez tout le monde, c'est juste que là, voilà, c'est un biais qui va se ressentir en particulier déjà dans le monde de la recherche, donc en fait, globalement, on a en fait un lien affectif à certaines espèces qui vont finalement nous amener à préférer l'étude de certains groupes, donc en particulier sur les mammifères. On va avoir un rapport émotionnel à nos objets d'étude. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle Aurélien Mirales, qui est biologiste, qui a mené une étude qui a été publiée en 2019 et lui s'est interrogé sur ce lien entre attachement et espèce en termes de cognition. Donc, il a fait une étude où il a demandé à 3500 participants de choisir différentes illustrations d'espèces en danger et de faire un choix. Donc, parmi ces espèces, on a des reptiles, des mammifères, des oiseaux, des poissons, mais aussi des champignons et des arbres. Donc, en fait, il leur a demandé, il les a interrogés sur leur capacité à comprendre les émotions qui sont ressenties pour toutes ces espèces. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est que plus nous sommes proches dans l'arbre du vivant, donc plus nous sommes proches en termes d'évolution, plus nous montrons de l'empathie et de la compassion pour ces espèces-là. Fort de cette découverte, en fait, on peut en partie expliquer le déséquilibre qui va exister dans les études qui sont consacrées à la biodiversité. Par exemple, les mammifères sont 500 fois plus étudiés que les amphibiens. Et puis, si on devait respecter les proportions des espèces vivantes, 9 études sur 10 devraient être consacrées aux insectes, pour les animaux en tout cas. Et cette préférence émotionnelle, en fait, va nous détourner d'espèces qu'on va considérer comme moins attrayantes, comme, alors je vais peut-être pas m'étendre dessus, mais les champignons, par exemple, sont des organismes qui sont très très peu étudiés, c'est très contraignant, c'est pas très beau un champignon. Donc il y a assez peu de spécialistes, on va avoir assez peu de connaissances dessus, alors que ce sont des organismes qui sont vraiment essentiels dans les écosystèmes. On le sait déjà avec les symbioses avec les arbres, mais il nous reste énormément de choses à découvrir dessus. On estime qu'il y a 1,5 million d'espèces de champignons dans le monde. Ce sont des estimations, alors que nous n'avons que 300 000 espèces de plantes.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une sorte de vision utilitariste de la biodiversité ?
Alors, ça aussi, ça fait partie, alors déjà, de la manière dont nous appréhendons la biodiversité. En fait, on va avoir tendance, donc avec ce fameux biais-là, en tant que scientifique, on a tendance à privilégier l'étude de certaines espèces, mais aussi en tant que décideur, on peut avoir aussi des préférences, un attrait pour certaines espèces plus mignonnes, entre guillemets. Il y a une vraie science de la mignonitude qui se développe pour expliquer pourquoi est-ce qu'on préfère protéger, par exemple, le panda que certains poissons des abysses qui sont absolument repoussants. Donc on a aussi voilà cette vision là et puis évidemment on peut se poser la question des espèces qui sont invisibilisées par exemple parce que simplement on on a l'attention détournée par ces espèces mignonnes. Et puis de l'autre côté, eh bien, ce sont des fois des espèces dont nous n'avons pas conscience de leur existence. Elles sont éloignées, elles sont microscopiques, pour différentes raisons. Ou alors, comme vous dites, il y a un côté utilitaire. On ne considère pas d'un côté que ce soit utile de protéger une espèce, dans le sens où on ne verra pas l'utilité de protéger les moustiques, par exemple, ou certains insectes, alors qu'ils sont fondamentaux dans les chaînes alimentaires. Et puis, le côté utilitariste, effectivement, donc on parlait de la Convention sur la diversité biologique, qui a un peu un fondement. Donc là, effectivement, si on lit le document, il y a un aspect très prononcé sur la visée utilitaire de la biodiversité.
D'accord.
Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Trépin. Merci Madame Royer. Merci également à Euradio de nous avoir permis de réaliser ce projet en mettant à notre dispositif les moyens techniques nécessaires. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette émission.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.